Et on va maintenant passer au billet économique qui nous a été préparé par Julien. Julien qui a dû s'absenter ce soir. Et c'est donc de nouveau avec toi que nous sommes. Arthur, tu vas pouvoir nous lire ce texte. Et il me semble que, comme d'habitude, tu commences par un chiffre.
60%. Les taxes composent 60% du prix du carburant de la pompe en France. Selon Julien, le mouvement des Gilets jaunes reflète un fait saillant, incontestable pour ne pas dire incontesté. Le sujet du carburant est ultra sensible, presque aussi sensible qu'un enfant de 5 ans devant Bambi. Et il en veut pour preuve la petite colère de l'Automobile Club en 1995, la flambée européenne des prix et des taxes en 2000 et la hausse du gazole de 20% en 2004 qui figureront des pêcheurs, agriculteurs et routiers. Et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes. Le sujet du carburant est donc presque aussi sensible que le pétrole lui-même. Il est très difficile de prévoir et encore moins de maîtriser. Les variations de prix de cette matière première, ô combien stratégique.
Et quels sont les facteurs qui expliquent du coup la variation du prix du pétrole brut, Arthur ?
4 facteurs principaux qui expliquent une telle volatilité du prix du pétrole brut. D'abord, il varie en fonction de l'état de la croissance mondiale. En effet, plus un pays a de croissance élevée, plus sa consommation l'est aussi. La demande de pétrole augmente donc, ce qui modifie les prix. En général, plus il y a de demande, plus les prix montent, car l'offre de pétrole est oligopolistique et détenue principalement par certains pays. Ensuite, le prix du pétrole dépend des capacités de production de pétrole par les pays et les entreprises productrices, ce qu'on peut assimiler à l'état de l'offre. L'épuisement d'un gisement va raréfier le pétrole et donc augmenter les prix. La découverte de nouveaux gisements, quant à elle, fera baisser les prix. Aussi, la tendance à la hausse ou la baisse du dollar sur les marchés de change a des conséquences sur le cours du baril brut. Et pour cause, c'est dans la devise américaine qu'est négocié le baril. La plupart du temps, quand le dollar baisse, le prix du pétrole a tendance à augmenter. Enfin, la situation géopolitique des pays producteurs influe sur le prix du brut. Par exemple, sous les effets conjugués de la révolution iranienne, de la fuite du Shah, de la guerre Iran-Irak, le prix du pétrole a été multiplié par 2,7 entre la mi-1978 et 1981, le deuxième choc pétrolier. La seule chose qu'on sait, selon le spécialiste de l'énergie Francis Perrin, c'est la tendance cyclique. Après une hausse de prix, survient toujours une baisse. L'inverse est toujours vrai.
Et le prix du carburant en France dans tout ça ?
Le prix du carburant en France est donc en fonction des variations du prix du pétrole brut. Mais cette variation ne constitue que 30% environ de son prix final, c'est-à-dire une fois raffiné. Le reste, c'est 10% de coûts de raffinage, de transport et de marge des entreprises. Et 60% de taxes maintenant. La taxe sur la consommation, TVA, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la TVA sur cette même taxe. Au cœur de la gronde sur la hausse de prix du carburant se cache la question de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est l'ancienne taxe intérieure sur les produits pétroliers, mais avec une composante carbone qui vise explicitement à pénaliser la pollution induite par les carburants. Son taux est fixé par la loi de finances et ne varie donc pas pendant un an. Cette taxe ne s'adapte donc pas aux variations du cours du pétrole brut. Elle représente les 2/3 environ maintenant du coût du carburant à la pompe et cette taxe devrait rapporter environ 13,3 milliards d'euros à l'État français.
Mais du coup, Arthur, la politique de taxation du carburant est-elle vraiment efficace ?
On peut s'imaginer, en tout cas sans se tromper, que l'État ne taxe pas pour le plaisir de taxer. En économie, il y a toute une littérature pléthorique sur l'effet des taxes, avec pour livre fondateur « The Economics of Welfare » d'Arthur Cécile Pigou, un marginaliste qui a développé une théorie assez élevée dans les années 1920. Il peut donc expliquer comment faire rentrer un peu dans le monde de l'économie du bien-être et de la fiscalité. Une taxe peut avoir un bénéfice économique. Une taxe est un outil utilisé pour redistribuer les richesses entre agents et ainsi corriger les inégalités. En économie, on parle de redistribution pure pour qualifier la redistribution des inégalités. On laisse faire le marché et l'État intervient pour corriger ces inégalités en effectuant des transferts de richesses entre agents. Cet argent peut être aussi utilisé par l'État comme source d'investissement. Ainsi, l'argent levé par une taxe pourra être redistribué aux agents les plus démunis ou investi dans des projets utiles à tous et ainsi augmenter le bien-être des agents. Une taxe peut aussi avoir un effet environnemental. On peut imaginer qu'un produit de plus en plus cher deviendra un jour trop cher et les consommateurs s'en détourneront. C'est l'effet prix qui marche par exemple sur le paquet de cigarettes. Aussi et surtout, une taxe peut aussi combiner effet bénéfice environnemental et bénéfice économique. On parle dans le jargon des économistes du double dividende de la taxe pigouvienne. Il y a à la fois un bénéfice environnemental, moins de pollution, et un bénéfice économique, effet de redistribution et possibilité d'investissement dans les grands projets. Cependant, ces effets ne sont pas mécaniques. Il reste donc à voir comment l'État français va utiliser cet argent. Mais encore avant, il reste à voir comment le mouvement des Gilets jaunes va jouer sur cette politique fiscale.
Merci beaucoup Arthur, on se souviendra du double dividende de la taxe pigouvienne qui nous accompagnera dans notre sommeil ce soir. Merci beaucoup évidemment à Julien pour cette chronique qui explique un petit peu les enjeux de cette mobilisation. Il est 20h35 sur Transistor, on passe tout de suite à la culture, mais d'abord une dernière petite actu.